Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose de méditer un texte et ça sera une série que je vous proposerai aussi sur les paraboles de Jésus, notamment dans l'évangile de Matthieu. Et ce matin, nous prendrons celui qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 9, à partir des versets 9 jusqu'au verset 13. Matthieu 9, versets 9 à 13. Matthieu 9, 9 à 13. Alors, je vous ai dit la dernière fois, j'ai une petite affection pour la version Semeur, qui me semble est un peu plus contemporain que la version Louis II. Et je vous fais la lecture. Vous pouvez toujours suivre dans la version Second. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus étant à table chez Matthieu, or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Ou encore, selon la version Louis II, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Une parole étrange lorsqu'on sait que Jésus fait référence ici à tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament sous la gouvernance de Moïse et qui a régenté tous les compartiments de la vie des Israélites, depuis le désert de Sinaï jusqu'à la venue du Messie, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Alors, la compassion plutôt que les sacrifices. C'est selon Matthieu le principe que Jésus entend mettre en place en annonçant la venue du nouveau royaume, le royaume de Dieu, dans lequel lui est roi, dans lequel il va démontrer son autorité en accomplissant pas mal de prodiges. Et en effet, Jésus a montré qu'il avait autorité sur la nature, chapitre 8, versets 23 à 27, sur le monde spirituel, en chassant des démons, sur la maladie, chapitre 9, versets 1 à 8. Alors la question se pose, comment est-ce que les gens de son temps vont l'accueillir? Et c'est ce que Matthieu fait dans son évangile. Comment est-ce que les uns et les autres accueillent ce roi, ce Messie, longtemps attendu? Le récit que nous avons lu au début est une illustration de la diversité des manières dont les principes de ce nouveau royaume que Jésus annonce ont été reçus. Ici, il est question du principe de la compassion. Alors, je risque d'utiliser alternativement compassion, amour, quoi d'autre ? Des choses similaires, qui se ressemblent. Parce que le mot hébreu qui est traduit pour donner compassion revêt toutes ses couleurs. Et le français a proposé compassion dans certaines versions, d'autres amour et bien d'autres encore. Alors, je risque de vous parler alternativement d'amour, de miséricorde, de compassion, de compassion. Et donc ici, il est question de compassion, de la miséricorde, de l'amour selon les versions. Nous essaierons dans un premier temps de voir quelle a été la réaction de Matthieu face à cette compassion de Dieu. Et deuxièmement, quelle a été la réaction des pharisiens dans notre texte face à cette même compassion de Dieu. Et troisièmement, nous nous poserons la question, comment réagissons-nous, Église biblique baptiste d'Argenteuil, face à la compassion de Dieu, face à cette compassion que Jésus manifeste à l'égard de Matthieu. Alors tout d'abord, Matthieu face à la compassion de Jésus. Question, qui était Matthieu? Et je pense qu'on ne peut pas apprécier justement ce qui se passe dans ce texte si on n'a pas une idée claire de qui était Matthieu. Alors, qui était Matthieu? Verset 9, Jésus s'en alla. Et en passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Et Luc, qui raconte la même histoire dans son évangile, l'appelle Lévi, c'est la même personne. Mais lui, il est plus précis encore. Il décrit son activité en disant de lui qu'il est collecteur d'impôts. Et croyez-moi, frères et sœurs, je pense que si vous viviez dans le temps, à l'époque de Jésus, vous n'aimerez pas être collecteur d'impôts. Sauf si vous aimez l'argent. On considérait que les collecteurs d'impôts étaient une catégorie de personnes à part dans la société. Ils étaient parmi les plus mal aimés, les plus méprisés. Et même là, le mot est faible. Si vous aviez un collecteur d'impôts dans votre famille, un frère, un cousin, un oncle, travaillant pour les Romains, travaillant pour une nation qui occupait et qui opprimait votre nation, travaillant à vous piquer de l'argent pour le donner à l'oppresseur romain, je vous laisse imaginer quel sentiment vous aurez à l'égard de ce genre de personnes. Telle était la vie de Matthieu. Tel était son quotidien, son destin. Il était considéré comme un voleur, un traître à la solde de l'oppresseur. Un collabo. Alors si vous voulez savoir ce que ça veut dire un collabo, je vous renvoie à vos cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous verrez que sous le régime de Vichy en France, il y avait des collabos et ils ont passé un sale quart d'heure après la guerre mondiale. Au vu de la société de ce temps-là, Matthieu était un paria, écarté de quel que soit le groupe, celui des Juifs, mais aussi celui des Romains, parce que les Romains non plus ne l'aimaient pas en tant que collecteur d'impôts. Pour autant, Jésus, en passant, l'appela en lui disant « Suis-moi ». « Suis-moi », deux petits mots qui ont changé la vie d'un homme. Deux petits mots qui ont exprimé toute la compassion que Jésus avait pour Matthieu. « Suis-moi ». Est-ce que vous vous rappelez du moment où Jésus vous a dit « Suis-moi ». Est-ce que vous vous rappelez de la répercussion que ça a eu dans votre vie? Suis-moi. Alors, nos réponses n'ont certes pas été comme celui de Matthieu, parce qu'on nous dit que Matthieu se leva et il suivit Jésus. Et j'aime Luc, hein. Luc est encore plus précis en disant, il laissa tout. Et il suivit Jésus. Il laissa son poste, il laissa son argent, et il suivit Jésus. Sans doute que Matthieu avait déjà entendu parler de Jésus, sans doute qu'il avait déjà entendu parler des miracles qu'il accomplissait. Nous sommes à Capernaum, la ville où habitait Jésus, et la ville où Matthieu était collecteur d'impôts. Alors bien sûr, il a sans doute entendu parler de cet homme Jésus, Mais ce jour-là, quelque chose s'est produit. Jésus a exprimé envers Matthieu de la compassion, de l'amour. Alors que tous lui tournaient le dos, alors que tous le méprisaient à cause du choix qu'il a fait de collaborer avec les Romains, d'extorquer de l'argent à son propre peuple pour donner à l'oppresseur romain, Jésus vient et le considère digne de recevoir sa compassion, son amour. Il lui dit « Suis-moi ». Et j'imagine que ces paroles ont dû résonner comme des paroles de guérison à l'oreille de Matthieu. « Enfin quelqu'un qui me considère, quelqu'un qui voit en moi autre chose que le collecteur d'impôts que je suis. » Un commentateur suggère que Matthieu envisage cet événement comme un miracle qui s'est produit dans sa vie. Pourquoi ? Parce que c'est même lui qui écrit ce que nous lisons. Et il le place au beau milieu d'une série d'autres miracles. Et donc pour lui, cet événement dans sa vie est un miracle. Jésus qui passe, cet homme dont j'ai entendu parler, qui accomplit des miracles, il vient et il me dit « Suis-moi ! » Un pécheur comme moi. Et vous êtes d'accord avec moi que un pécheur qui vient à se repentir est un grand miracle. La parole de Dieu dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et cela est le fruit de la compassion du Christ qui désire que tout homme soit sauvé. Non seulement Matthieu répond positivement à l'appel de Jésus, mais il produit des fruits très rapidement. Alors c'est moi qui le dis. Pourquoi ? On ne sait pas combien de temps s'est passé entre le moment où Jésus l'appelle et le moment où il organise ce banquet en l'honneur de Jésus. Mais il nous est dit au verset 10, « Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. » Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. Pour moi, ça ressemble à une campagne d'évangélisation, mes amis. Matthieu, déjà, a été appelé, sa vie change et il produit des fruits. Il ramène avec lui tous ceux qui lui ressemblent, les collecteurs d'impôts comme lui, tous ceux de sa catégorie et même plus. Des gens de mauvaise vie, pécheurs notoires. Alors, ce n'est pas juste le petit pécheur qui ment de temps en temps. Non, c'est le gars qu'on ne veut pas voir. C'est pour ça que la Bible du semeur a écrit « pécheur notoire ». Le bonhomme produit des fruits. Il organise une campagne d'évangélisation parce qu'il veut lui aussi que ceux comme lui connaissent celui qu'il a appelé, ce Messie, ce Jésus. Quelle transformation de vie, n'est-ce pas ? D'isolé qu'il était, le voilà faisant partie d'une grande famille. Le voilà faisant partie de ceux que Jésus appelle à être ses disciples, à être formé pendant 3 ans. Pour ensuite devenir apôtre. Mais vous savez quoi ? Ce banquet n'a pas fait l'unanimité chez tous. Ce banquet a même été décrié par une catégorie de personnes. Et ce sont là les pharisiens. Verset 11, il nous est dit, en voyant cela, les pharisiens interpellent ses disciples. Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec ces personnes-là, collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ? Mais comment ? Et Jésus entend. Et il répond. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre. Quel est le sens de cette parole ? Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et moi, quand je lis ça, je dis po, 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 po. Il a frappé fort, le gars. Pourquoi réagir ainsi à cause d'une simple réception? Et si on ne sait pas ce qui se passe derrière le rideau, on ne comprend pas pourquoi ils réagissent comme ça. Pourquoi les pharisiens semblent aussi contrariés de ce que Jésus mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Notoire. Et il faut le savoir que pour les pharisiens, les repas étaient un moment de communion importante de la société et de la vie religieuse. Ils les prenaient dans le strict condition de pureté. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué avec cette notion de pureté et d'impureté dans l'Ancien Testament. Mais le pharisien ne mangeait pas avec n'importe qui. Le pharisien n'avait même pas le droit, en tout cas le juif en général, n'avait même pas le droit d'entrer chez un non-juif. Manger avec des traîtres, des voleurs, des parias, s'associer avec ces gens-là, c'était prendre un risque de devenir rituellement impur, incapable d'aller au temple, incapable d'aller à la synagogue, incapable d'offrir des sacrifices. Alors moi, je ne m'associe pas avec ces gens-là. Nous pourrions nous contaminer, pensait-il peut-être. Et ça, Jésus devait le savoir quand même, lui le grand rabbin. Comment peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Ces personnes de mauvaise vie, des gens mis à l'écart, au banc de la société. Et Jésus qui répond par cette petite parabole, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Quelle vérité simple, claire. Et moi, de me poser la question en lisant ça, suis-je malade? Suis-je malade ou pas? Suis-je bien portant ou pas? Dans quelle catégorie je me situe? Jésus reconnaît que ces personnes qui sont à table avec lui, ces personnes qui collaborent avec les Romains, ces personnes qui sont mises à l'écart de la société, il reconnaît qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'un médecin. Et vous savez, Jésus ne les conforte pas dans la vie qu'ils ont choisie, dans le style de vie choisi, dans le choix qu'ils ont fait, mais il affirme en les accueillant leur valeur. Il affirme leur besoin de compassion, d'amour. Il leur dit par là que « Je vous aime malgré votre situation, malgré ce que vous êtes. » Jésus aime les gens malades. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Il n'aime pas le péché, certes. Il n'aime pas ce que le péché et la maladie font d'eux, mais il aime les malades. Et il est venu pour les guérir. Et sa réponse aux pharisiens, allez donc apprendre ce que ça veut dire. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Ou alors, ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Ou encore, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et ces paroles que Jésus cite sont tirées du livre d'Osée, ce prophète, au chapitre 6, verset 6, où Dieu accuse son peuple d'afficher un amour comparable à la rosée du matin sur l'herbe qui se dissipe aussitôt que le soleil se lève. Voulant dire par là que l'amour est... Il n'y a même pas d'amour là, finalement. Tout ce qui reste de cet amour, c'est la coquille vide des sacrifices. Ce que Dieu veut dire et veut faire comprendre à son peuple par l'intermédiaire de son prophète, c'est que ce qu'il veut, c'est un cœur plein de vie de la part de son peuple, plein de compassion, quotidiennement, chaque jour, toute la semaine, toute l'année, pas que le dimanche. Un cœur rempli de vie, débordant d'amour pour les autres. Non pas un peuple dont la vie n'est qu'une coquille vide, faisant plein de bruit, parlons d'amour alors que on ne manifeste pas d'amour. Jésus sait qu'ils sont malades. Il sait qu'ils ont besoin de médecins. Et Jésus ne regarde pas au costume trois pièces qu'ils portent, parce que ce sont quand même des collecteurs d'impôts, des gens friqués. Il ne regarde pas au costume trois pièces qu'ils portent, il ne regarde pas à leur belle situation, à leur belle maison, à leur belle voiture, à leur belle réussite. Non. Tout ce qu'il voit, ce sont des personnes qui ont besoin d'un médecin, des personnes malades, des personnes en mal de guérison. Jésus parle ainsi parce qu'il est porteur de vie. Il est le médecin par excellence, le médecin dont ces gens-là ont besoin, le médecin dont vous et moi, nous avons besoin. Il a leurs médicaments et il est là pour leur apporter ce médicament. Et j'ai l'impression que Jésus, là, il est frustré par l'aveuglement des pharisiens. Parce que face à cette tablée, tout ce que les pharisiens voient, c'est un problème d'impureté rituelle. Mais il va se salir, Jésus. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de ces collecteurs d'impôts? Tout ce qu'il voit, c'est un problème d'observance de la loi. Un enseignant comme Jésus devrait savoir que fréquenter ces personnes, c'est s'exposer à l'état d'impureté rituelle. Les pharisiens étaient plus préoccupés par les sacrifices que l'expression de la compassion, de la miséricorde. Et Jésus les renvoie à l'apprentissage d'une leçon fondamentale pour le croyant. Fondamentale. En filigrane, on peut lire que Jésus leur dit que vous êtes en train de commettre les mêmes bêtises que vos ancêtres. Vous vivez une foi vide d'amour, vide de compassion, tout comme vos ancêtres à l'époque d'Osée. Toutes vos cérémonies, vos sacrifices, ça ne veut rien dire pour moi si elles sont dépourvues de compassion et d'amour. Alors la question que je nous pose, j'avais prévenu, hein, comment est-ce que nous, Église biblique baptiste d'Argenteuil, accueillons cette compassion de Dieu? Sommes-nous des malades, de notre point de vue, hein, ou des bien portants? Sommes-nous au bénéfice de sa compassion? Comment vous voyez? Ne répondez pas, en tout cas en vous-même. Comment vous voyez? Comme des personnes bien portantes ou comme des personnes malades ayant besoin de ce médecin Jésus, ayant besoin du médicament qu'il a à nous apporter? Sommes-nous des pécheurs ou des justes? Et c'est ça qu'il veut nous demander. C'est ça qu'il leur demande. C'est ça qu'il veut leur faire remarquer en parlant de malades et de bien portants. Sommes-nous des pécheurs ou des justes? Si vous estimez être des justes, alors ce message, du point de vue de Jésus, n'est pas pour vous. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il raconte là? La Bible dit bien qu'on est juste. Nous qui sommes repentants, transformés à l'image du Christ. Je sais que ça trotte dans votre tête. La Bible dit que nous sommes justes parce que nous avons donné notre vie au Seigneur. En tout cas, il nous dit aussi que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, si c'est seulement votre réputation religieuse qui vous préoccupe, et que vous ne faites aucun cas des autres à cause de leur faiblesse, à cause de leur péché, à cause du style de vie qu'ils ont adopté, alors vous avez besoin aussi de ce médicament que Jésus donne. Réfléchissez à cela. Tous ces efforts, et là je prends une autre parabole, tous ces efforts pour être un bon lévite, un bon sacrificateur, et passer à côté de l'occasion d'être un bon samaritain. Et c'est ce que Jésus veut souligner ici, en envoyant les pharisiens apprendre leurs leçons, découvrir à nouveau ces vérités de la parole de Dieu. Êtes-vous malade ou êtes-vous bien portant? En tout cas, moi, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de son remède. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, en 1 Jean, celui qui dit ne pas avoir de péché. Dans d'autres versions, celui qui dit ne pas être pécheur, il fait de Dieu un menteur. Êtes-vous bien portant ou êtes-vous malade? Je vous laisse avec cette réflexion et je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous inclinons devant toi à l'écoute de ta parole. Et Seigneur, nous voulons nous examiner encore. Parce que ta parole est pour nous cette mesure à partir de laquelle nous mesurons nos vies. Ce miroir dans lequel nous nous regardons. Et Seigneur, en ce qui me concerne, lorsque je regarde dans ce miroir, tout n'est pas rose, tout n'est pas beau, tout n'est pas joli. Loin de là. Et je confesse, Seigneur, que j'ai besoin de toi comme médecin. J'ai besoin de toi, de ce remède que tu me donnes. Parce que j'ai à cheminer encore avec toi. Parce que de temps en temps, oui, je fais des bêtises, je pêche. Alors Seigneur, merci. Merci de souligner cela pour nous aujourd'hui. Donne-nous d'aspirer, Seigneur, à t'accueillir en tant que médecin. Pas seulement celui qui sauve, mais celui qui guérit. Et c'est là même un double usage du mot, puisque Ésaïe nous rappelle, Seigneur, que la maladie, le péché est comme une maladie pour nous. Le péché est ce qui gangrène les hommes et tu es venu apporter la guérison. Alors Seigneur, donne-nous de recevoir cette guérison. Jour après jour, donne-nous d'être renouvelés par ton esprit. Donne-nous de nous confesser devant toi. Donne-nous aussi de ne pas regarder aux autres plus bas que nous, non. Mais donne-nous de les estimer. Même s'ils ne sont pas des nôtres, même s'ils n'empruntent pas le même chemin que nous. Mais donne-nous d'avoir cette compassion, cet amour pour les autres, comme tu l'avais pour les gens de ton époque. Donne-nous d'avoir de l'amour pour nous aussi. Tu dis que c'est à cela que les gens reconnaîtront que nous sommes tes enfants. Alors, Seigneur, fais ton œuvre en nous, chacun de nous. Que ton nom seul soit glorifié au sein de ton Église. Amen.